RCF. Au fil de la vie, Marc Taillebois.
Philippe Gonigam, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RCF. Je vais vous laisser nous dire qui vous êtes. Peut-être commencer par votre enfance, votre parcours de jeune, de formation. Est-ce que vous avez fait des études? Assez vite, le sport a dû prendre une place importante dans votre quotidien.
Absolument. C'est vrai que si on doit démarrer une présentation par l'enfance, c'est vrai que déjà... Le sport était présent. Alors, je suis mosellan.
J'allais vous demander, vous êtes de Moselle.
Ouais. Oui, absolument. Je suis de l'Est mosellan, de la région de Saint-Avold. Et donc, j'ai grandi dans une cité minière avec un frère jumeau. J'ai un frère jumeau et on a eu un parcours commun. Et le sport est très rapidement arrivé dans notre parcours, puisque dès l'âge de 9 ans, on s'est engagé dans cette activité qui a pris très rapidement un bel espace. Et vous parliez dans votre question de mon parcours de formation. Alors il est vrai qu'il a été rythmé par cet objectif qui a d'abord été sportif. Et donc ça a été, on va dire, autant agréable dans le démarrage de mon cycle d'études, très compliqué au moment où on était en pleine carrière. Parce que concrètement, concilier deux activités à temps plein, c'est pas facile. Mais enfin, en tous les cas, on a su se récupérer, en tous les cas, travailler sur un beau projet de reconversion qui nous a amené, à rattraper des fois le temps qui pouvait être perdu.
Alors, on va reprendre un petit peu, mais donc vous parliez à 9 ans, donc... Vous avez, je pense, été à l'école primaire un peu comme tout le monde, comme tout à chacun, mais ensuite, à partir de quoi, à partir du collège ou du lycée, on peut avoir un espèce de sport-études, quelque chose où on mixe un peu les deux?
Oui, c'est juste.
C'est ça.
En tous les cas, mixer, c'était, on va dire, deux activités qui étaient, on va dire, successives, puisqu'on est parti c'est juste après le collège, donc au lycée. À Bar-le-Duc, c'était une section sport-études qui permettait donc de pratiquer donc des entraînements en fin de journée. Donc c'est vraiment une addition des choses qui...
C'est ça, donc les cours le matin et en début d'après-midi et du sport en deuxième partie d'après-midi,
voilà,
tous les
ça.
Jours.
Tous les jours, oui, tous les jours.
Et votre frère faisait comme vous de l'athlétisme ou autre chose?
Non, on était dans la même discipline.
D'accord.
Voilà, et donc sans dire qu'on était des concurrents, on était régulièrement confronté à des temps de compétition.
Alors, est-ce que vos parents, papa ou maman, étaient sportifs ou pas du tout, ou c'est le hasard?
Alors, je ne peux pas vous dire si c'est le hasard. Mon père, effectivement, avait un parcours traditionnel de footballeur dans les quartiers, comme ça se passait assez souvent. Maman n'était pas sportive, mais on avait cette qualité où peut-être ce défaut, quand on est enfant, on était hyperactif. Et il est vrai qu'il fallait nous canaliser. Et le sport a été un vrai médicament pour rester ponctuellement assis à l'école tranquillement.
Alors, ce que je crois comprendre, c'est que donc à côté donc de la dimension sportive et donc des entraînements, etc., vous avez quand même fait une formation au-delà du bac même.
Oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, je suis titulaire d'un bac plus 5, mais orienté vraiment sur la partie sportive, puisque je suis plutôt spécialisé, dans la gestion des organisations, qu'elles soient sur plan national ou européenne. C'est un peu ma spécialité, mais j'ai également en parallèle travaillé sur une formation, notamment pour pouvoir réaliser des bilans de compétences, parce que dans mon activité, j'ai eu la chance de... suite à ma carrière, de m'occuper d'autres sportifs et notamment de travailler sur toutes les dimensions d'accompagnement, de formation et de reconversion.
Alors ça, on en parlera dans la deuxième partie, parce que c'est la suite, c'est après la carrière sportive. Et donc après le bac, vous avez fait des études supérieures?
Oui, comme je vous l'ai dit, donc on a démarré... Alors la première partie de formation supérieure, on l'a fait aux États-Unis. Donc c'est au moment où on va préparer les Jeux Olympiques en 1988. Où on va travailler sur un projet sportif très difficile et concrètement les États-Unis, en tous les cas le monde universitaire aux États-Unis était vraiment très ouvert à pouvoir rendre compatible ces deux temps, et c'est ce qu'on a fait donc en 1988, et ça nous a éveillé. Alors autant ça a été une expérience difficile sur le plan sportif, parce qu'on était vraiment sur un lieu de préparation olympique où il y avait les meilleurs du monde. Donc c'est quand même différent que d'être en France. Et mais par contre sur le plan sportif, on était vraiment en lien avec un monde éducatif qui a amené à nous former, en tous les cas à rendre possible la formation associée à un gros projet sportif.
Alors on va pas faire toute la carrière sportive, mais dites-nous un petit peu. Voilà, j'ai dit que vous étiez dans l'athlétisme, vous faisiez du saut.
Alors du 400 mètres
haies. Du 400 mètres haies, oui, c'est ça, oui, je cherchais le...
J'étais international sur la période de 1985 à 1990. Donc j'ai eu la chance de pouvoir participer à des grands championnats, des coupes d'Europe, des championnats d'Europe, des championnats du monde. Ça m'a permis également de beaucoup voyager comme tous les sportifs. Et donc c'est un parcours, on va dire, honorable, parce que concrètement, on était plutôt des besogneux. Donc par rapport à notre discipline, on n'avait pas forcément toutes les qualités physiques requises, mais globalement, on était des compétiteurs et on s'en sortait pas trop mal. Donc c'est un parcours que, quand on le regarde avec un peu de recul, un parcours honorable. Maintenant, on peut toujours faire mieux. Hein, et donc, avec du recul, il y a des rendez-vous qu'on a vraiment bien réussi, d'autres qu'on aurait pu optimiser. Mais enfin, en tous les cas, quand on ferme cette histoire, le livre de cette histoire, on peut être que satisfait de ce qui s'est passé.
Alors justement, est-ce qu'il y a l'un ou l'autre moment particulier dont vous gardez mémoire, avec évidemment le recul des années, de cette période de carrière sportive de haut niveau ?
Alors oui, effectivement. Alors c'est marrant, quand vous me posez la question, spontanément on pourrait répondre le moment où on était le plus performant. Or, si je dois garder en mémoire un moment important, c'est une sélection en équipe de France avec mon frère, où on était donc engagé dans un tournoi. C'était le tournoi des 8 nations, et donc c'était deux athlètes par pays et par discipline, et on a eu la chance de représenter la France tous les deux sur ce même rendez-vous. Et ça a été un moment de partage assez intense, parce que c'est particulier de se retrouver donc sur ce type de rendez-vous et d'être avec son propre frère, le représentant d'un pays. Et je me souviens que le journal L'Équipe avait titré les jumeaux en bleu. Alors c'était une couleur qui m'allait bien, et donc j'étais satisfait.
Voilà, on va faire une première pause musicale en écoutant Aller plus haut. Et puis après, on va parler de justement, après la carrière sportive, il y a toute une carrière autour des ressources humaines et de l'accompagnement des sportifs. C'est après la première pause musicale.
Et dessiner des souvenirs.
au fil de la vie sur RCF Jéricho Moselle.
Nous poursuivons notre rencontre ce matin avec Philippe Gunningham, qui est le nouveau délégué épiscopal pour la pastorale du sport dans le diocèse de Metz. Mais on a évoqué un petit peu son parcours sportif. Alors, pendant qu'on écoutait cette chanson Aller plus haut, ça aurait été plutôt pour des sauteurs à la perche, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, vous évoquez quelques noms comme Guy Dru. Voilà, il y a un certain nombre de sportifs dont les médias ont beaucoup parlé avant, après vous. Mais alors, donc, il y a la période sportive, la carrière sportive, ça occupe bien la vie, mais il y a un jour où ça s'arrête. Hein, pour des questions, j'imagine, d'abord physiques, tout simplement. Mais il faut rebondir, continuer. Comment ça s'est passé pour vous et qu'est-ce qui s'est passé après? Parce que je crois que vous êtes toujours resté dans le monde du sport, mais vous êtes passé de l'autre côté, celui des accompagnateurs, il y a les entraîneurs, il y a les fédérations, les coachs.
Oui, c'est ça. En tous les cas, ce passage ou cette reconversion s'est bien déroulé. Je dirais qu'elle s'est faite en deux temps. La première partie a été réalisée grâce au Charbonnage de France, parce que donc sur ma fin de carrière, sur les quelques dernières années, j'ai eu la chance d'occuper un emploi à la médecine du travail à Frémin-Merlebach, qui m'a permis d'associer des temps de travail, des temps d'entraînement. Et ensuite, cette transition s'est bien passée parce qu'en fait, on était quand même dans un environnement favorable qui était moins compliqué qu'aujourd'hui, parce que clairement, sur le plan socio-économique, on était dans une situation un peu différente. Plus favorable en tous les cas, et la chance qu'on avait également, c'est qu'on est resté en Moselle. La plupart de mes amis ont rejoint la capitale et sont rentrés plutôt dans des clubs parisiens plus huppés. Et en fait, nous on a décidé de rester qu'en Moselle, même si ça avait été difficile, enfin pas le choix, mais en tous les cas la pratique de notre activité dans des conditions un peu différentes. On n'avait pas de salle, on n'avait pas de piste synthétique, etc. Mais ce choix-là nous a permis de représenter notre département, notre région, d'être identifié. Et c'est plus facile d'être connu en Moselle en faisant cette discipline qu'à Paris. Et ça a payé par la suite parce que ça nous a facilité un peu cette transition. Et concrètement, on sait que c'est pas une étape facile parce qu'on est dans un bouleversement de vie. Alors d'abord physiquement, parce que
j'imagine que c'était un énorme investissement du quotidien, et que d'un seul coup, quand ça s'arrête...
Alors, il y a effectivement d'abord cet impact physique, puisque quand vous arrêtez, il n'y a plus de sens à pratiquer une activité pour votre loisir, parce que nous, on avait le sens de la compétition, donc on était dans un format qui n'était pas celui du sport santé. En tous les cas, ça a été un temps d'adaptation, pour vous dire que les premières semaines, j'arrivais pas à trouver le sommeil, parce que j'étais pas fatigué. Cette fatigue physique nous manquait, etc. La deuxième chose qui est importante aussi, qu'on a bien ressenti, c'est l'identité que vous avez par rapport à vous-même ou par rapport aux autres. On vous regarde en tant que sportif et pas en tant que personne. Autant ça peut être sympa, autant c'est compliqué quand vous vous considérez plus sportif. C'est-à-dire que vous êtes toujours le sportif dans le regard de cette personne qui vous parle, elle a toujours l'impression que vous êtes dans cette dimension. Et de façon anecdotique, quand on a arrêté, en tous les cas, moi personnellement, je commençais à prendre un peu de poids. Et donc, je me suis remis au sport quand on m'a posé la question, est-ce que vous êtes de la famille du sportif? Parce qu'ils n'imaginaient pas que j'avais pu faire du sport. Donc, vous voyez, le physique, enfin le regard que peuvent avoir les autres sur vous et votre parcours, c'est bon, quelque chose qui est à prendre en compte. Donc cette transition, cette reconversion pour nous a été plus facile, mais j'ai failli utiliser le mot mais qui convient le mieux. Aujourd'hui, il faut vraiment prôner pour une transition professionnelle et non pas par une reconversion. La reconversion, dans l'idée, c'est de recommencer quelque chose. La transition, c'est considérer que la pratique vous a amené à développer des compétences, des habiletés, que vous pouvez ensuite transposer dans d'autres activités, dans d'autres secteurs, et pas forcément que dans le sport. Donc voilà un peu la dimension de la reconversion qu'on a vécue.
Alors justement, il y a dans ce travail de l'après-carrière sportive un certain nombre de risques, et je crois que vous avez particulièrement essayé de porter souci des risques psychosociaux qui concernent les sportifs. professionnel.
Alors c'est juste, c'est vrai qu'aujourd'hui je suis président de l'Union nationale des sportifs de haut niveau, donc c'est un mandat syndical qui m'amène à les représenter, mais également de travailler sur tout un volet de protection. Autant l'activité physique, c'est quelque chose de sain pour le corps, autant quand on est sur de l'excès, ça peut être contre-productif. En tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est que les sportifs sont exposés à des risques d'intégrité physique, mais également psychologique. Et on va dire que ça, je l'ai découvert donc dans ma deuxième vie. Ça veut dire qu'une fois que j'avais arrêté le sport, et par un concours de circonstances, bon, j'ai été élu délégué consulaire et j'ai eu la chance de pouvoir siéger à la Caisse régionale d'assurance maladie. J'ai découvert un monde que je ne connaissais pas du tout et qui était celui d'une branche professionnelle dans laquelle certaines obligations liées à des pratiques dangereuses étaient imposées aux entreprises. Et donc, très concrètement, une entreprise qui expose ses salariés à des risques ont en contrepartie des obligations en matière d'évaluation de prévention des risques. Et je me suis rendu compte, alors, ça c'est dans les secteurs dans lesquels on travaillait, que ce soit sur le plan industriel, sur le plan du nucléaire par exemple, ou même dans le bâtiment, ça paraît évident qu'on doit sécuriser le travail du salarié. Autant dans le domaine du sport, on avait intégré que le risque était présent et que la blessure faisait partie du quotidien. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment assimilé, intégré, et ce qui n'est pas possible.
Oui, on peut pas partir du principe que c'est normal que les gens soient complètement abîmés après leur carrière, quoi.
Tout à fait, et même pendant leur carrière.
Ouais, parce qu'il y a encore moins, mais après non plus.
Il y a des temps de blessure, il y a des temps de rééducation, des temps. En tous les cas, il y a des temps de souffrance. Et dans l'absolu, on dit pas que le sport de haut niveau, ça devrait être interdit. Ça devrait être mieux encadré. Et même dans une stratégie de performance, en réduisant les risques, donc en les maîtrisant, on optimise les chances de réussite. Donc on n'est pas contre la performance, bien au contraire, mais dans une idée de préserver l'intégrité de la personne qui pratique.
Voilà, ça a été toute une part de votre carrière. On n'a forcément pas tout évoqué, ce qui s'est passé de la carrière sportive jusqu'à aujourd'hui. Mais je le disais en introduction, et c'est aussi un peu l'intérêt de cette émission, c'est de lever un peu le voile aussi sur ce qui se passe dans le diocèse. Alors, dans un an, il y a les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et donc, au niveau de toute l'Église de France, il y a une dynamique d'essayer de réfléchir et de déployer un peu cette notion sport et foi. Et donc, vous avez été appelé par l'évêque pour mener une mission autour de ça. On va en parler dans la troisième partie. Juste après avoir écouté une chanson qui a accompagné les champions du monde, c'était au football, mais c'est aussi des sportifs.
I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. We'll be right back.
Au fil de la vie, Marc Taillebois.
Nous poursuivons notre émission ce matin avec Philippe Gunningham, qui était champion de France en 1986 et qui maintenant est délégué épiscopal pour la pastorale du sport dans le diocèse de Metz. Philippe Gunningham, justement, c'est une nouvelle fonction, une nouvelle mission. Qu'est-ce qui retourne derrière ce terme délégué épiscopal à la pastorale du sport ?
Alors,
qu'est-ce que vous allez faire ?
Alors, dans une première étape, dire d'abord que le lien entre le sport et l'Église, c'est quelque chose qui existe déjà depuis très très longtemps. Notamment, enfin, historiquement, si on devait parler de ce lien-là, on ne peut pas ignorer l'histoire des patronages ou de grands clubs encore aujourd'hui. Je pense à la Auxerre en particulier avec l'abbé Deschamps, mais où l'Église a été vraiment à la base de la structuration du développement du sport sur les territoires, mais également en présence de l'Église aux Jeux Olympiques. Parce que donc au moment où on réinstaure les Jeux, donc en 1896, enfin en tous les cas quand on va remettre en route cette philosophie des Jeux Olympiques qui avait été créée 700 ans avant Jésus-Christ en Grèce, eh bien le baron Pierre de Coubertin a l'intention de mettre en place des Jeux, des compétitions sur plan mondial avec une volonté de paix, etc. Et en fait, il va se rapprocher du père Henri Didon, qui avait déjà développé ce concept de jeu sportif dans les églises catholiques. Et c'est en lien donc avec le père Henri Didon que va être mise en place cette première démarche de réinstauration des jeux. Et la devise des jeux, c'est le père Henri Didon qui l'a lancé. Donc le lien avec le sport, donc
ouais, les valeurs olympiques et les valeurs chrétiennes se rejoignent, quoi.
Complètement. Et on a une vraie histoire. Ensuite, ce qui va se passer à Paris doit avoir une conséquence sur l'ensemble des territoires. L'Église catholique de France a décidé réellement d'être présente sur ce moment important. Eh bien, il va y avoir une déclinaison sur la Moselle que j'ai la chance de piloter. En tous les cas, la volonté, c'est de faire participer, on va dire, l'ensemble des jeunes à ces gros événements. L'idée, c'est à travers les valeurs communes que nous avons, de fraternité, d'entraide, etc., de vivre ce moment. Alors en Moselle, mais également on a des moments où on pourra se déplacer sur des lieux de compétition, etc. Donc il y a une vraie volonté de partage et de vivre ce moment ensemble.
Voilà, ça va se décliner tout au long de l'année prochaine, évidemment, avec aussi le carême à domicile de l'année prochaine, au mois de février. Vous serez invité à faire un carême autour aussi de ces questions des valeurs du sport. Et puis, il y aura, je pense, des rendez-vous avec les écoles catholiques, et des rendez-vous peut-être que les prêtres aussi, hein, invités à faire mouvement.
Alors, c'est juste. Alors, sur le plan des établissements d'enseignement catholique, notre volonté est de les inciter à être labellisés Génération 2024 pour qu'ils puissent s'engager dans chaque établissement à des formes de pratique et à participer à l'événement. Et puis, par rapport aux prêtres, il est important d'imaginer que ce sont soit des entraîneurs, soit des compétiteurs, mais en tous les cas, ils s'occupent des autres. Et pour prendre soin des autres, il faut également savoir prendre soin de soi. Et la pratique sportive nous amène à prendre soin de soi et puis à pratiquer physiquement des activités qui vous amènent à un vœu pieux qui est celui de la perfection. Alors ça peut dépasser effectivement l'ambition physique.
Ah, il n'y a pas que le physique, mais on est appelés tous à être des saints, hein. Et Holy Games, hein, c'est ça, c'est aussi de développer une dynamique de participation et de faire grandir toute la personne humaine, y compris dans la dimension spirituelle. Voilà un petit peu le projet que vous allez porter avec nous, et puis on sera heureux de vous retrouver sur RCF régulièrement pour vous donner des nouvelles. Chers auditeurs, il est déjà le temps de se quitter. À bientôt.